France Musique. Musicopolis. Le Tédéum de Marc-Antoine Charpentier. Pour commencer, écoutez donc ces quelques mesures, elles vous diront peut-être quelque chose. Oui, oui, vous avez bien entendu, bicycle, bicycle. Ce que je vous fais entendre là n'est pas seulement une version un peu ancienne et pas du tout historiquement informée du Tédéum de Marc-Antoine Charpentier, c'est aussi et surtout l'indicatif de l'Eurovision, qui servait, dans le temps, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, à indiquer qu'un grand événement, sportif ou politique, était retransmis en même temps sur toutes les télévisions européennes.
Bonsoir et bienvenue sur cette antenne, car ce soir, ici à Luxembourg, c'est la fête du cyclisme.
En 1989, le Tour de France partait pour la première fois du Grand-Duché du Luxembourg. Une occasion célébrée en Eurovision, comme il se doit. Aujourd'hui, l'indicatif est toujours celui du grand concours de chansons qui fait s'affronter une fois par an tous les pays européens. L'indicatif a des tournures un peu changeantes selon les années, mais on le reconnaît toujours. Bon, je ne vais pas vous faire l'historique de toutes les versions de l'indicatif de l'Eurovision, je vais plutôt revenir à l'histoire ancienne et à la partition d'origine qui, vous allez l'entendre, va largement suffire à alimenter notre petite émission. Voilà, grâce à ce prélude en rondo, avec ce refrain qui revient assez de fois pour bien nous entrer dans la tête et y rester, le Tédéum de Marc-Antoine Charpentier est lancé. On entend bien qu'il s'agit là d'une composition écrite pour une occasion solennelle, et même, allez, lâchons le mot, pour une occasion royale. Sans doute, en effet, mais laquelle? On ne le sait pas avec certitude. Durant le règne de Louis XIV, on chantait des Tédéum très souvent, pour célébrer le roi, sa santé, ses fêtes, ses victoires. Ce Tédéum-ci date sans doute du début des années 1690, période fort guerrière où les victoires, justement, ne manquaient pas.
Te dominam, te dominam, te dominam.
La guerre qui oppose le royaume de France entre 1688 et 1697 à 8 pays européens coalisés sous le nom de Ligue d'Augsbourg est la cinquième que mène Louis XIV. Sur 72 ans de règne, on lui compte 46 ans de guerre. Il semble que c'est un peu le lot de tous les souverains de cette époque qui usent malgré tout de diplomatie tant que c'est possible. Mais entre leur volonté de conquête et la lutte contre la volonté de conquête des voisins, arrive un moment où les 10 souverains sont amenés à engager leurs armées. Pour ce qui est de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, la plupart des batailles et des occupations ont lieu vers les frontières de France et au-delà. Les populations françaises n'ont pas trop à en souffrir, mais en revanche, il faut payer pour guerroyer et même cher payer. Les impôts pèsent très lourd. Mais au fait, qu'est-ce qu'un Te Deum ? C'est d'abord un texte qui remonte sans doute au IVe siècle et qui pourrait être dû à saint Ambroise. C'est une hymne d'action de grâce qu'on peut traduire par « Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, Père éternel, toute la terre te vénère », etc. Dans le royaume de France, on chante depuis longtemps cette hymne en cas d'événement heureux. Mais dès le début du règne de Louis XIV, elle devient beaucoup plus systématique. Et à la cour, les maîtres de chapelle se pressent, sur ordre du monarque, pour composer des motets sur le Te Deum et les diriger dès que c'est possible. On en compose aussi en dehors de la cour. Et c'est toujours un événement officiel, raconté dans les gazettes et les mémoires. Si Louis XIV a insisté pour qu'on célèbre les événements royaux par des Te Deum, il y a une bonne raison. C'est que même si le texte adresse une louange à Dieu, tout ce qui est dit peut faire référence à la gloire du roi. On sait que le roi en France est considéré comme de droit divin. Bossuet, célèbre prédicateur, écrit que les rois sont sacrés par leur charge comme étant les représentants de la majesté divine. Il faut garder les rois comme des choses sacrées. Si on lit le texte du Te Deum dans cette perspective, en fait, il suffit de remplacer le mot « Dieu » par le mot « Roi » ou par « Louis ». ce qui donne quelque chose comme « L'Église gallicane vous proclame, vous, notre roi, et votre vrai et unique fils, le dauphin, notre futur maître, digne de toute adoration. Rien qu'à penser à vous, ô roi, suffit à nous consoler de nos maux. Ô Louis, vous êtes le roi de gloire, etc. etc. » Lorsqu'on écoute le texte du Te Deum dans l'idée que tout ce qui est dit divin est de fait royal, on se rend compte que l'œuvre devient un véritable outil politique, un instrument de propagande au service du roi. Ce qui n'empêche, vous l'entendez, que ce texte peut être mis en musique de manière extrêmement sensible. Et j'en arrive enfin à Marc-Antoine Charpentier, qui n'est pas maître de chapelle du roi, mais qui a été nommé en 1687 maître de musique des jésuites de la rue Saint-Antoine, un poste, dit-on, des plus brillants. Charpentier a étudié à Rome avec Carissimi, maître de chapelle des jésuites. Il a sans doute étudié avec les jésuites à Paris, donc il connaît bien la Compagnie de Jésus. Il connaît son enseignement, qui met l'accent sur la rhétorique, sur l'apprentissage des arts et l'utilisation de tous les sens pour amener à la connaissance. À l'église Saint-Louis, rue Saint-Antoine, où les jésuites disent leurs offices, les cérémonies sont toujours somptueuses et tout concourt à la magnificence. La décoration est d'une grande richesse, avec ustensiles d'or et d'argent, tableaux des plus grands peintres. On y entend des prédicateurs de grand talent, comme Bourdalou, dont les sermons provoquent des embouteillages de carrosses. Et bien sûr, la musique est l'une des plus belles de la capitale. Les musiciens et les chanteurs viennent pour la plupart de l'opéra. d'après ce qu'on sait de Marc-Antoine Charpentier, il n'était probablement pas homme à susciter le bruit autour de lui. À l'opposé de Jean-Baptiste Lully, homme d'affaires redoutable, qui faisait beaucoup pour se montrer, qui s'ingéniait à récolter les postes et à faire entendre sa musique, Charpentier a eu une carrière plus modeste, sur le plan des honneurs du moins. Néanmoins, il était connu du public parisien et il est bien certain que les fidèles du quartier de la rue Saint-Antoine venaient écouter sa musique. Un article du Mercure Galant d'août 1692 à propos d'une cérémonie en l'honneur de Saint-Louis dit « La musique, qui était de Monsieur Charpentier, charma toute l'assemblée. On ne peut rien ajouter à la réputation qu'il s'acquiert de jour en jour. » D'après les archives de Marc-Antoine Charpentier, qui recopiait soigneusement toutes ses œuvres au propre dans des cahiers numérotés, on sait qu'il a composé 6 Tédéums au cours de sa vie. Il n'en reste aujourd'hui que 4, dont celui que nous écoutons en ce moment. D'après les spécialistes, il aurait pu être donné à l'église Saint-Louis, l'église des Jésuites, à l'occasion de la victoire de Steinkerck, remportée le 3 août 1692 par le maréchal de Luxembourg pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Une victoire dont les pertes totales sont évaluées à 17 000 hommes. Le temps que l'annonce de la victoire se répande jusqu'à Paris et que Charpentier compose son Te Deum, l'œuvre pouvait être donnée, quelques semaines plus tard sans doute, dans le faste et les ors de l'église Saint-Louis, avec la musique et les chanteurs venus de l'opéra. Très peu des œuvres de Charpentier ont été publiées de son vivant et pendant de longues années après sa mort, elles ont été oubliées jusqu'à ce que des musicologues avisés les retrouvent et les confient à des musiciens aventureux pour les jouer et les enregistrer. Pour en revenir à l'indicatif de l'Eurovision, on peut signaler cet étonnant retournement de la postérité qui a transformé cette musique composé durant une guerre à la gloire d'un monarque absolu, en un signal d'événement de masse dans un ensemble de démocraties unies, en principe, par la paix. Le dernier chœur du Te Deum en ré majeur H146 de Marc-Antoine Charpentier, Lézard florissant, dirigé par William Christie. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Édouard Sanzoni et Léa Gramusset pour les recherches et le site, Philippe Thibault pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.